Et comment ça fonctionne? C'est ça qui est intéressant, ça fonctionne avec les lois de la parole, l'énonciation, l'acte, les actes, bon, l'engagement du sujet, ce qui est compromis dans sa parole, qu'il le veuille ou non, il est compromis. Et aujourd'hui, personne ne se considère compromis, puisque tout le monde, jusqu'au chef de l'État, peut dire n'importe quoi pour brasser. Ça s'appelle démagogie, donc il n'y a plus de parole, la parole ne vaut plus rien. Et puis il y a des contraintes syntaxiques qui sont des contraintes grammaticales. Alors ça, en général, quand on n'a pas fait de maths, on connaît un peu la grammaire. Et on s'en réjouit. De toute façon, la grammaire, c'est formidable. Et l'étymologie aussi, c'est formidable. Et mais il y a aussi des mathématiques, parce qu'il y a des lois qui sont strictement d'écriture. Et la logique, c'est généralement un passage de la grammaire. Quand les grammairiens, ils n'arrivent pas à faire une grammaire scientifique, ils se demandent pourquoi. Puisqu'on a fait une physique scientifique avec Newton, on a réussi à écrire la formule de la gravitation. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une grammaire scientifique? Je vais vous dire, c'est simple, c'est parce que c'est à cause de Totem et Tabou qu'on ne comprend pas ça. Et on va le comprendre, puisqu'on va finir bien un jour par lire Totem et Tabou d'une manière moins idiote, grâce à des gens comme Lacan et comme Lévi-Strauss aussi. Les critiques de Lévi-Strauss, ça l'énerve beaucoup, ça gratte. Il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi? C'est pas un meurtre que de vouloir se débarrasser de la langue, de la culture, de tout ce qu'on reçoit de ses parents. Parce que le savoir s'invente. Donc si je veux apprendre quelque chose, il faut d'abord que je l'étudie. Mais que je l'étudie comme quelqu'un qui fait de l'investigation. C'est, vous savez, la fameuse recherche. Dans la recherche, ça ne se fait pas au CNRS avec un salaire, ça se fait avec une passion. Ça s'appelle le désir. Et donc, on n'a jamais rien trouvé en science sans cette passion. Lisez la vie de Pasteur, lisez Meyer, lisez Russell, Bertrand Russell, lisez la vie d'un certain nombre de ceux qui ont un peu inventé quelque chose. Vous verrez que ça bave. Ça bave, c'est pas du tout marrant. C'est pas du tout tranquille. Alors les types, ils veulent faire une psychanalyse tranquille. Ils appellent ça la psychothérapie. Je m'allonge sur le bord de la piscine, parce qu'on a installé la divorce de la piscine, et puis... vodka orange, et ça va venir. À un moment donné, ça va tomber du ciel comme les poulets rôtis. C'est comme ça qu'ils conçoivent la contingence. On fait une analyse qu'on est analysant. Freud le disait à Ferenczi, il écrit dans une lettre, il lui dit, mais écoutez, si le patient n'est pas prêt à brûler les meubles, référence à Bernard Palissy. Vous connaissez l'image d'Épinal, vous avez peut-être eu ça dans vos livres d'histoire. Il y avait un chapitre, Bernard Palissy, la faïence, Limoges. Ça représentait quoi? Le papa, une brute épaisse, qui était en train de brûler tous les meubles, la table en chaîne, le banc en chaîne, et la mère coincée dans un coin avec les enfants autour d'elle. Ouh là là! Parce que le père était un fou furieux, il était en train d'inventer la porcelaine de Limoges. Bon, c'est comme ça. Donc, alors les types, ils sont là, ils vont nous dire mais non, venez chez moi, vous allez voir, c'est pépère. Si vous venez chez moi, vous avez déjà une garantie, puisqu'on s'occupe de votre inconscient, il va vous vouloir du bien. C'est faux. C'est un des derniers mots de Lacan. Ne croyez pas. Ce qu'on appelle l'inconscient aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait Dieu autrefois. Et ne croyez pas que votre inconscient vous veut du bien. Comme, Lacan, c'est un peu inquiétant quand même. Vous voyez, moi je pense qu'actuellement on a matière à s'inquiéter. Non, mais c'est pas du tout sans, c'est pas du tout pour faire peur et pour emmerder le monde qu'il faut dire ça. Il faut dire ça pour dire quoi? C'est que le plus dangereux, justement, c'est la débine. C'est la démagogie, la débine. C'est-à-dire le fait de ne pas s'impliquer dans ce qu'on fait. Si vous vous impliquez dans une passion, bon, ça peut faire un peu peur aux voisins, un peu peur à la femme de ménage et tout ça. Donc moi je préfère pas avoir de femme de ménage dans le cabinet, je préfère passer l'aspirateur moi-même parce que elle m'emmerde. Je ne peux pas pratiquer la psychanalyse dans un endroit où il y a une femme de ménage qui vient pour mettre de l'ordre. Chez moi, c'est, ceux qui connaissent, c'est un peu bordélique. Bon, il y a beaucoup de bouquins, il y a des craies, il y a des tableaux, il y a de la... Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la passion, le désir, c'est ça. Seulement, c'est très dangereux, puisque les résultats qu'on obtient, comme par exemple la relativité, Einstein, écoutez-lui, il faisait ça. Il faisait ça comment? dans une soupente à Zurich, il était sous le toit, dans une chambre de bonne, vous voyez, mais, et là, il mettait 35 tables, non, 35 cahiers, il mettait 15 tables pour mettre 35 cahiers côte à côte pour écrire ses équations. Ce qu'on a écrit depuis, en faisant des progrès de mathématiques, grâce à Einstein, on a écrit, grâce à c'est Hermann Weyl qui a construit, et ensuite Cartan, et Hermann Weyl, Cartan et Eichmann qui ont construit la géométrie différentielle, dans laquelle on fait de la topologie d'ailleurs, c'est un des chapitres mathématiques de la topologie. Mais ça ne nous occupe pas beaucoup, parce que c'est un peu compliqué. Enfin, je veux dire, si on est esthète, c'est très très bien, mais moi je pense que c'est. Moi, je ne suis pas fasciné par ce passage de l'algèbre à la topologie, de l'algèbre du fini à l'infini, le point des limites, des différentiels, tout ça. C'est, oui, vous savez, c'est l'histoire de dx, des différentiels. Bon. Vous avez même Deleuze qui en parle dans différences et répétitions, ça dit un peu des bêtises, parce que qu'est-ce que c'est que ce dx, par exemple, des différentiels? Ça a fait turbiner deux siècles de mathématiciens, hein. C'est pas les gens d'ici, il y en avait ici, certainement, à l'école normale, mais qui s'occupaient de ça aussi, mais c'était surtout les mecs de Polytechnique. D'ailleurs, vous vous souvenez, on disait quoi, epsilon, hein? C'est rentré dans le vocabulaire potache, epsilon, non? Bon, ça a occupé quand même beaucoup les esprits, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dx, de Leibniz, les fluxions de Newton? C'est quoi? Ben écoutez, quand ils se sont aperçus, on ne sait pas comment, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas comment ça leur est venu, dans le ciboulot au bout de la plume. Mais quand on s'est aperçu que la dérivée d'une fonction qui est une somme, vous avez une fonction qui est égale à la somme de deux fonctions, d'accord? La dérivée f', c'est u' plus d'. Alors là, vous dites, ça va, tranquille, hein, ça marche bien, ça marche. Seulement le problème, c'est que, regardez, quand c'est un produit, qu'est-ce que c'est la formule? Ah, la dérivée du produit, alors je vous l'écris en dérivée, mais je peux vous l'écrire en dx, hein, si vous voulez que je fasse chic. Ça revient quand même. C'est ça, la fonction. La dérivée, c'est un rapport de différentiel. Hein. C'est dx sur dy. Dy sur dx. C'est df sur un dx. Bon. Qu'est-ce que c'est ici quand c'est un produit? C'est égal à uv' plus, non, moins. Ah, merde, il y a un moins. U'V. Bon. Eh bien, c'est pas tout à fait aussi simple que pour la somme. La dérivée d'une somme, c'est une somme de dérivées. Alors, quand c'est comme ça, on se dit, bon, ben, on est en algèbre classique, ça marche. On est en train de faire la même chose en logique, vous voyez. Ce que je suis en train de vous raconter en logique, c'est le même tabac. Qu'est-ce que ça veut dire, le calcul différentiel? On s'en fout de ce que c'est que dx ou dy. Ça, tout ça, c'est des moyens d'écriture. Ça n'a aucun référent. C'est comme les électrons dans l'électricité. Vous voyez que les électrons, c'est des petits grains qui se baladent dans des fils, pas du tout. Hein? Non, les électrons, c'est des trucs qu'on a inventés parce qu'on a écrit, on a essayé de faire. Bon, il y a toujours cette histoire de représentation. On veut toujours que ce soit l'écriture, soit un duplicat de la parole, un duplicat du monde. C'est une duplication. Là, on cherche toujours. Alors qu'actuellement, en logique, on est en train de découvrir justement que la théorie des modèles, c'est pas ça. La théorie des modèles, c'est formidable. Ça fournit plein d'incomplétudes. Déjà, on sait une chose, c'est qu'il n'y a pas de théorie de la démonstration. Donc, la théorie de la démonstration qui existe, la seule, c'est justement l'étape de vérité dont je vous parle. Je vous ai envoyé l'étape de vérité, vous voyez. Parce que c'est un tout petit bout. La logique, elle est en train de se réduire. La logique idéale, totale, elle est en train de se réduire à un noyau de chagrin. Vous voyez? Un espèce de noyau de... Vous avez qu'à prendre un abricot au printemps et puis vous le laissez sécher, vous allez voir ce qui devient à l'automne. Hein? Vous allez voir, c'est un truc qui se réduit en séchant. Vous voyez? Bon. La logique, elle est en train de... L'idéal, la logique idéale et l'idéal de logique, c'est en train de sécher, complètement s'assécher. C'est un noyau réduit à un grain. Mais ça ne veut pas dire au contraire que ce n'est pas intéressant de faire de la logique, ce n'est pas un échec. Ça, c'est les curés qui ont dit ça. C'est le type en 1950 qui a écrit les limites internes du formalisme. Il travaillait pour le pape. Hein. Vous savez, c'est dans la Pléiade. C'est dans la Pléiade, dans le volume sur les sciences, son article sur les limites internes du formalisme. Hein. Donc, il s'appelait comment? Je ne sais plus comment. Personne ne sait ça ici. comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, il est tellement, je trouve que c'est une catastrophe. Moi, j'ai jamais cru. Les gens qui sont pour et les gens qui sont contre la logique, ils ont le même idéal. Ils croient qu'ils vont arriver à la totalité. Ça continue. Vous voyez ? Bon, c'est pour ça qu'il faut lire Freud, mais pour lire Freud, il faut lire Lacan. Parce que peut-être que ça vous soigne de ça. Bon. Et alors, je finis sur la question de la raison, de cette logique. La logique totale, elle se réduit à un noyau, mais plus à bas, plus on s'aperçoit que la logique. Et bien que la manière de se tromper, la manière de. C'est peut-être pour ça qu'on a cru que la psychanalyse s'occupait de l'irrationnel, s'occupait de l'irrationnel. La psychanalyse, elle est absolument une œuvre de raison. Mais la raison a bougé avec Freud. Hein, Lacan l'a écrit comme ça. L'instance de la lettre ou la raison depuis Freud. Bon. Et qu'est-ce que c'est la raison ? On s'aperçoit que la raison, il n'y a rien de plus raison hein, que la connerie. C'est même ça le problème de la psychanalyse aujourd'hui, vous voyez, parce que ça marche, la connerie, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que les choses qui, justement, marchent. On voudrait qu'elles marchent bien. Vous voyez, le genre utilitarisme, ou je ne sais pas, marxisme même, pour faire fonctionner l'économie capitaliste libérale, vous voyez, ça se récroule aussi. Ça a des crises. Bon, donc le problème, c'est que là, avec Freud, on découvre quoi ? On découvre ça. Moi, c'est en lisant Kojève que j'ai commencé à m'apercevoir de ça. Quand il parle du mec du XVIIe siècle, le dictionnaire de Pierre Bayle, ça vient de sortir. Hein, on a retrouvé ça dans des papiers chez lui. Il y a quelqu'un qui l'a enfin publié, là, il fait une préface. Et en le lisant, bon, il le dit très très bien, Kojève, que la logique et la raison, c'est une tentative de un. C'est une tentative de faire un et total. Lisez ça, rien que pour ça, vous verrez comment il le dit de multiples manières, comment la raison, elle est tout le temps. Pourquoi il explique très bien pourquoi elle a tendance à vouloir faire un et la totalité de la raison. Parce que la raison, c'est, d'après lui, c'était comme ça au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est différent. Pour moi, la raison, c'est ce qui passe d'une thèse à une autre thèse dans les démonstrations. C'est la vérité. La vérité, c'est la raison de la logique. Si une thèse est vraie, grâce au modus ponens, je fais passer la vérité dans la suivante. Bon. Mais lui, la raison, c'est quel est le discours cohérent, démontrable et communicable qui serait partagé par d'autres hommes raisonnables. Hommes ou femmes, pourquoi pas. Donc la raison, c'est ça. La raison pour lui, c'est donc la raison, il est forcé qu'elle veut être convaincante, vous comprenez, puisque je ne suis convaincu de la raison, de ma raison, que si jamais ce que je raconte, j'arrive à en persuader suffisamment les autres pour qu'ils partagent la même raison. Donc la raison a une tendance très 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 régulière à vouloir être totale, puisqu'elle veut convaincre. Et moi je vous dis, il ne faut surtout pas chercher à convaincre, alors avec la psychanalyse, sûrement pas. Il faut laisser chacun se faire sa raison, de chacun se faire sa conviction. Et surtout, ce qui est le plus important dans la psychanalyse, c'est pas la croyance, c'est le fait de l'humilité, de savoir que de toute façon,
on sait pas.
Et non seulement on ne sait pas tout, ce qui est très faible de le dire comme ça, regardez, non seulement on se gourre tout le temps, et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc c'est pas un meurtre, que c'est pas un crime de tuer son père, il ne s'agit d'ailleurs même pas de tuer le père, de tuer son père, il s'agit de voir que c'est ça qui ne va pas dans le état. Le problème, c'est que il n'y a pas de grammaire scientifique parce que chaque génération va apprendre la langue, sa langue, va réinventer cette langue et va faire une nouvelle littérature, une nouvelle musique, une nouvelle peinture. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal, les jeunes, nos enfants, enfin, les miens, je vois qu'ils ont beaucoup de mal parce que c'est de plus en plus difficile avec l'industrialisation qui est passée là-dessus comme un rouleau compresseur. Donc aujourd'hui, ils peuvent plus apprendre parce qu'ils ne peuvent plus inventer. Pourquoi ils ne peuvent plus inventer ? Parce qu'on leur parle d'une langue d'acier, une langue de bois, une langue de boîte en fer blanc, de boîte de conserve. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Comment vous voulez inventer une langue si on vous bassine toute la journée avec des mots comme, je ne sais pas moi, consommation, comment ils appellent ça, évaluation. On prend des mots même de la logique pour faire sérieux, pour faire scientifique. Et hop, on vous fait une langue de bois, mais c'est pire que Staline et c'est là qu'il se trouve aujourd'hui Adolf Hitler. Hein, c'est dans ce parler qui ne permet même plus. Parce qu'en plus, on a voulu le démocratiser. moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut pas seulement partager, qu'il ne faut pas ségréguer d'une manière injuste. Moi, je suis pour la justice. Bon. Et ça m'ennuie beaucoup, l'injustice. Donc, ça me fait beaucoup réfléchir comment on pourrait faire pour arriver à pas. Mais la ségrégation qui est nécessaire au sens, justement, pas d'exclure les gens, non, le fait de faire des différences. Puisque Freud a dit, il y a deux libidos et c'est peut-être la même. Mais nous, ça ne nous empêche pas de travailler parce qu'elles sont deux. C'est ça qu'on ne comprend pas, vous comprenez? On ne comprend pas que la différence est absolument nécessaire pour faire quoi? Eh bien, je vous dis, la ressemblance ne produit rien. Je ne suis pas le fils de mon père et le père de mon fils parce qu'on se ressemble biologiquement. C'est parce que justement, vous avez en trois générations, on a trois langues, trois cultures, on a même six langues parce qu'on n'a pas la même langue parlée, pas la même langue écrite. Donc on a plein de langues différentes. C'est forcé qu'on ne s'entende pas beaucoup, papa. Avec papa, ça peut être difficile. Bon, les filles, elles ont des problèmes avec maman, c'est déjà une catastrophe, un ravage, évidemment. Et les types, ils sont plutôt contents avec maman parce qu'elle est contente. Ils ont eu un peu peur parce qu'ils ont vu qu'elle avait peur que, mais ça se calme assez vite. Et du coup, ils sont contents parce que maman est contente parce qu'eux, ils en ont eu. Et à partir de là, ils sont plutôt fâchés avec papa. Mais le papa, si c'est l'enfariné là, qui dit que le monde est sans limite, parce que lui, il n'a plus d'autorité, il confond le père avec le phallus, l'autorité, la parole. Hein. Et du coup, il voudrait imposer justement sa culture à ses enfants. Et puis, il me l'a dit un jour, c'est pas un secret. Un jour, il m'a dit, mais écoutez, c'est formidable les mathématiques. Les mathématiques, c'est extraordinaire. Il m'a dit, vous avez un type. Sur le bord d'une paillasse, là, comme ici, et sur le bord d'une paillasse, dans un laboratoire de biologie, il écrit quelques formules sur un papier, et ensuite il va filer ça à des pharmaciens, à des entreprises de médicaments. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont faire la pilule anticonceptionnelle. Alors la fille, elle arrive de voir son père, elle dit, ce soir je sors, là, je vais avec Julo au bal. Et le père, il lui dit, ah non, tu vas pas sortir avec ce type-là, je t'interdis, tout ça. Tu sais pas, tu cours des risques énormes. La fille, elle dit, mais écoute, tu m'emmerdes, mais il y a la pilule anticonceptionnelle. Voilà, monsieur Farine. Vous voyez, la psychanalyse, elle est bien nantie. Alors le type, il écrit le monde sans limite, parce qu'il se plaint qu'on l'écoute pas lui. Ni sa fille, ni son fils, je sais pas, ni même sa femme d'ailleurs, peut-être, ou ses femmes, parce qu'elle est partie. Bon, le problème, c'est quand même ridicule. C'est quand même d'un. Et donc, personne ne rigole. Je suis d'accord que c'est grave. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà tellement grave que si en plus on ne peut pas rigoler, ça, c'est terrible, on va pleurer. Réfléchissez quand même. Si vous avez un peu de lucidité et que vous commencez à vous plaindre, vous direz, bien sûr, ça se plaindre. Ils sont tellement, tellement nuls. Bon. Alors, moi, ça ne m'ennuie pas qu'ils soient nuls. On l'est tous. Puisque je vous dis que la raison, il n'y a rien de plus que cette déraison comme raison. La logique, c'est découvrir que ça se trompe, ça fait des erreurs. Bon, la psychanalyse, c'est encore pire que ça, c'est hyperlogique, c'est tout le temps acte manqué, lapsus, tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la question. Et c'est pour ça que c'est de la logique. Parce que qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on apprend à lire. Et on s'aperçoit que c'est lisible et qu'en lisant, on va pouvoir écrire quelques trucs de plus. On va même inventer de l'écriture. Et Freud, ça lui a fait inventer 25 volumes, ça s'appelle les Gesamtwerke. Hein. Vous avez qu'à voir, c'est un tissu d'erreurs qui corrige et puis que ça l'amène à quoi? À découvrir, à faire deux grandes découvertes, deux grands résultats. C'est le narcissisme 1914, la phase phallique et la castration 1923. Les obsessionnels, ils ont tous raconté que c'était l'instinct de mort, la seconde copie. Hein. Il y a les Américains qui croyaient que c'était l'ego, psychologie, et les Français. Il croyait que c'était l'instinct de mort parce que ça ressemblait un peu au nihilisme de gauche. Vous savez, parce que quand on est de gauche, il faut être pessimiste, on est nihiliste. Et quand on est de droite, on est aussi nihiliste, puisque les nazis, c'est des vrais nihilistes. Hein. Mais enfin, il paraîtrait que de droite, on serait plutôt joyeux et tout ça. Bon, je ne crois pas, ils sont aussi cons que les autres. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs? Et vous voyez que les erreurs, c'est comme ça qu'on trouve des choses. Les erreurs, c'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline. Un type, il oublie un bout de préparation sur un coin de paillasse, ça pourrit, et hop, Roquefort. Ben oui, c'est comme ça. Donc, vous apercevez que c'est bon. Bon. Donc, il faut que vous arriviez à vous imprégner de ça, au lieu d'être là à pleurer, tous ces thérapeutes, me terrorisent. Ils sont là, ah oui, vous êtes malheureux, oui, parce que vous êtes malheureux. Les syndicalistes, moi j'aime mieux les syndicalistes, je suis désolé, les syndicalistes, au moins ils disent, la vie quotidienne, oui, c'est chiant, mais on peut la changer. Bon, c'est difficile, mais quand même. Écoutez, à la CFDT, ils ont affiché ça à Belleville, leur grand, on peut. Le quotidien, oui, ça marche pas très bien, mais on peut y faire quelque chose. Bon, vous voyez, est-ce dans la psychanalyse, dans la psychothérapie, on est là à dire, ah, oh, vous êtes malheureux de ça, mais alors, vous avez raison, qu'est-ce que je vous plains, oh, mon tour, c'est normal que vous soyez triste et tout ça. Ça me fait penser à ma voisine, je vais vous raconter ça. Ma voisine, quand elle a appris que j'étais psychanalyste, dans mon appartement au-dessus de chez elle, elle a dit comme ça un jour dans une réunion de la copropriété, elle est assise comme ça, c'est une dame, elle a plein de photos de Bernadette de Lisieux, non pas Bernadette, c'est lourd, de comment elle s'appelle, la Sainte de Lisieux.
Thérèse,
c'est pas la Thérèse, la grande Thérèse d'Avila, c'est la petite Thérèse pour les poilus de la Marne qu'on a fabriqué, la Sainte française qu'on a fabriquée pour faire rêver les poilus de la Marne, pour qu'ils aillent se faire tuer. Oui, et bien n'empêche que. Elle a des photos tout le temps de Sainte-Thérèse. Alors, elle était assise comme ça, une fois sur une table, tiens. Alors, quand même, les gens parlaient de psychanalyse, elle a dit, après tout le monde se sent un peu calmé, parce que quand on parle de psychanalyse, ça fait toujours un peu des vagues. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, elle a dit, très fièrement, moi, j'ai essayé, mais avec moi, ça n'a pas marché. C'est une belle formule, moi je pense que vous devriez garder ça dans vos cahiers. Hein? Avec moi, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait dire. Les gens sont quand même d'un ignorantisme extraordinaire. Comment voulez-vous que ça marche si vous avez décidé que ça ne marche pas? C'est vrai que ça repose que sur vos épaules. Hein? Alors, il y a encore un truc d'horloger, une causalité. Vous voyez, par exemple, Lacan, il dit des trucs comme ça. Il dit un type qui a vécu un inceste avec sa mère, ça, vous ne lui ferez pas le coup de la psychanalyse. Donc Lacan, il avait la notion, vous voyez, qu'il pouvait même y avoir encore une causalité d'horlogerie qui ferait que le type, de toute façon, le type, parce que là, il s'agit du garçon, hein, l'inceste avec la maman, eh bien, ça vous fait des gars qui, pas question d'analyse. Le coup de l'analyse, il dit. Bon. Donc il a tout à fait la notion qu'il y a du semblant. Seulement le problème, vous voyez bien aussi que toute la question, elle est justement là, c'est qu'en dehors de cette horlogerie, de cette causalité, enfin, tous ils sont là, ce qui signifie, c'était la montre, déjà ils ne savent pas très bien démonter et remonter la montre, alors le signifiant. Hein, donc, il n'y a rien à faire dans la psychanalyse si le sujet, il ne rentre pas, il ne reconnaît pas lui-même qu'il y est pour quelque chose. Et c'est ça qu'il faut dire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut dire. Tant qu'on ne le dira pas, que c'est une affaire d'engagement d'un sujet qui est responsable de sa cure, de l'institution qu'il institue avec le type psychanalyste ou la bonne femme instituée psychanalyste, on est analyste pour les analysants, de ces analysants, on est analyste dépendant. C'est pour ça que là, quand il dit de quelques autres, l'analyste s'autorise que de lui-même, hein, et de quelques autres. Bon. Il s'autorise, ça veut dire qu'il se fait du tort de lui-même, hein, il s'auto-autorise de lui-même, donc c'est beaucoup lui, hein, et il a intérêt à se faire payer parce que sinon il va avoir plein de véroles. Ça calme un peu, c'est comme du pain dans la lettre volée, vous voyez, il faut essayer de tempérer un peu les contre-coups de. Fréquenter les gens, c'est très très dangereux. Vous voyez, moi, j'ai même pas de femme de ménage. Pour mon métier. Parce que je trouve que c'est bien, n'est-ce pas? Donc, le point, vous voyez, c'est l'analyste s'autorise que lui-même et quelques autres. Ben, c'est les analysants qui sont analystes. Alors, quelle est la théorie de Lacan? Regardez où on est la psychanalyse aujourd'hui. Personne ne vous dit, personne ne veut dire, personne ne veut penser, parce qu'on est tous là avec des papiers paranoïaques, on ne sait plus lire, on ne sait plus écrire. Il faut que tout soit codé. Donc vous avez comme ça, ces gens, ils sont là, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Comme nous dit quelqu'un qui a des patients, qu'on appelle des analysants, depuis Lacan, hein, quelqu'un qui a des analysants, il est psychanalyste. à charge pour lui d'avoir fait le nécessaire pour occuper cette place. Mais ça ne regarde que lui. Et ses analysants, ah oui, les analysants, c'est normal que ça les regarde aussi. Bon. Et eux, ils ont intérêt à se rencarner parce que. Mais le problème, c'est que ça ne regarde que lui. Et alors là, justement, le titre, la passe, ils sont tous en train de vouloir faire la passe. Ils ne savent pas si ça va être un titre, un diplôme, un nom, nomination, tout ça. On est en train de faire un souk avec ça. Pourquoi? Parce qu'on voudrait qu'il y ait un trait différentiel pour reconnaître le psychanalyste. Eh bien, c'est comme les homosexuels, et Freud l'avait vu, que c'est les paranoïaques qui n'avaient pas les homosexuels, parce qu'on ne les reconnaît pas. Ce n'est pas écrit dessus. Hein. Je suis homo ou hétéro. Et puis les juifs, alors là, n'en parlons pas, ils passent leur temps, ceux qui sont antisémites, et puis les juifs aussi, à se poser la question, alors comment on va les reconnaître hein, bon. Donc c'est... Bon, vous connaissez tous le feuilleton, c'était comment ça s'appelait, les envahisseurs à la télévision américaine, non? Ils avaient un truc de reconnaissance, je crois, ils avaient un...
Ah oui,
un doigt qui était formé... c'est ça la ségrégation. C'est ça la ségrégation. La ségrégation, c'est en permanence. La question, c'est la surface. Ça s'appelle la surface. C'est de la topologie, ça, la surface. Mais avoir de la surface, c'est que ça ne se voit pas trop. Hein? Vous avez de la surface, quand vous avez de la surface, peut-être le banquier, par exemple, il va faire du crédit. Hein? Bon. Parce que tout ça, ça marche avec des coupures, ça marche avec des séparations, ça marche avec des oppositions. Et la différence, ça conduit où? Au lieu de la ressemblance, la différence, ça permet de faire des mots, de construire une langue. Mais alors, le truc extrêmement mystérieux, c'est que dans cette différence, il apparaît quelque chose qui s'appelle une involution. Hein, et que cette involution, elle s'appelle, avec Freud, elle rentre petit à petit dans l'histoire analytique. Ça s'appelle la répétition. Hein, c'est le sujet de mon cours. La répétition, j'en suis toujours là. Puisque Freud, Lacan va thématiser le mieux qui soit à propos de la séparation. Lisez ça dans Position de l'inconscient, c'est formidable. La répétition freudienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'il n'y a que la différence qui permet de faire de l'identité. Alors allez, essayez d'expliquer ça. C'est pas que le bon peuple ne peut pas comprendre, mais c'est que les journalistes et même les professeurs, ils ne le comprennent pas. Et les psychanalystes non plus. Vous comprenez? Et c'est ça qui est un peu embêtant. Alors, on voudrait nous faire croire qu'il faut devenir spécialiste pour arriver à comprendre ça. Non, il faut faire son analyse en étant décidé et en s'engageant dedans avec un désir suffisamment accroché pour faire ça comme brûler les meubles. Alors, allez-y maintenant.
Ouais, donc, moi, j'ai une différence. Vous dites donc que...
Vous voulez polémiquer?
Non, pas du tout. Non, une petite différence par rapport à deux dires de Lacan pour savoir si cette différence permet de dire la même chose ou
alors,
pas.
Alors, vas-y.
Donc, il dit, Aristote s'est pris le thème à tapis parce que, pour lui, l'universel, c'est comme si le grand pan savait dire.
Voilà.
Mais par ailleurs, il dit, Aristote s'est pris le thème à tapis parce qu'il confond le possible et le contingent. Et alors, je voulais voir si vous pouvez lier ces deux choses.
Parfaitement, parce que là, vous avez, je vous ai dit, vous avez des modalités. Ces deux modes, ce déplacement de la négation, hein, c'est ce qui va conduire à cette notion de l'universel et du Dieu qui sait lire. Il faudrait pister ça sérieusement en lisant, après la logique, il faut que je vous le répète, lire le traité de l'âme. Hein. La référence au hérisson est bien précise. Ensuite, le grand pan, et le fait qu'il sache lire. Donc ça, c'est Aristote. Et peut-être que ça ne se lit pas facilement en français, il faut le lire en grec. Mais là, ce que je vous dis, c'est que ce passage qui se trouve dans De l'interprétation, et je voudrais que vous lisiez ça même en français, chez Brun, ou aux belles lettres, avec le truc bilingue. Si vous connaissez le grec, ça serait bien que si quelqu'un connaît le grec, qu'il nous fasse un topo là-dessus, qu'il le lise dans la version bilingue. Mais la question... Moi, je vocalise le grec, mais je ne lis pas le grec, je ne comprends pas, parce que pas du tout suffisamment. Alors, je suis voué à écouter ceux qui savent un peu quelque chose. Mais le problème, il est, vous voyez, de lire ça, déjà, le chapitre 10, et lisez-le, et regardez qu'est-ce que ça vous fait. Bon, ça vous tombe des mains, hein, pop, ça vous emmerde. Ou bien vous commencez à prendre un papier et un crayon, puis vous écrivez des trucs comme ça, vous voyez. Vous écrivez des trucs pour arriver petit à petit à voir que ça ne doit pas être quand même impensable. Hein. Moi, je suis de l'avis que quand on sort un lapin d'un chapeau, il faut mettre le lapin dans le chapeau. Donc, je suis assez porté à l'idée que si quelqu'un a pu aller mettre la main dans un endroit, dans un lieu comme ça, pour y mettre quelque chose, on doit pouvoir arriver à aller le chercher. Bon. Mais peut-être que ça demande beaucoup d'efforts de lecture que d'arriver à faire ça. Hein. Donc ce serait déjà pas mal de prendre les choses d'une manière à plat, de regarder tel que c'est traduit là, qu'est-ce que ça vous dit ? Vous voyez, l'intelligence de notre exposé sera facilitée par le tableau ci-dessous. Et il met des tableaux, il fait des tableaux. Hein? Bon. Je suis certain qu'il ne suffit pas de dire ça, mais j'aimerais bien vous proposer cet exercice. C'est qu'on puisse discuter de qu'est-ce que ça vous a fait de lire le paragraphe 10 du traité d'Aristote qui s'appelle « De l'interprétation ». Bon. Et donc, ce que je vous ai envoyé par le courrier, c'est les données qui vont permettre d'intervenir là-dedans. Parce que, vous voyez, je pourrais continuer à vous faire le cours sur les prédicats et les canteurs, mais je vous ai dit, le truc intéressant à propos des canteurs, je vais l'écrire, c'est que personne, à ma connaissance, ne discute le fait que le verbe être, il est rendu par deux connecteurs différents. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'aspect modal. C'est le fait que, justement, vous voyez, il y a du... Ici, vous pouvez considérer que vous avez que vous avez affaire à quelque chose qui est contingent ou qui est possible. Regardez, pour répondre à votre question, je vous le dis comme ça, pour finir. Regardez, les quatre avec la logique modifiée, vous voyez. Vous avez une négation modifiée. Vous allez avoir le nécessaire, ça va être une double négation. Hein. Et l'impossible, ça va être une négation simple. Ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est impossible. Pourquoi la négation, c'est l'impossible ? Parce que c'est égal, dans cette logique-là, c'est égal à une triple négation. Donc la négation... Le nécessaire de la négation, c'est l'impossible. Vous me suivez ?
Non.
Le nécessaire de l'impossible, si c'est nécessairement nié, c'est ça l'impossible. Ça ne cesse de... Écoutez, le nécessaire, là, comme on dit, ça ne cesse de s'écrire. Et l'impossible, c'est ce qui ne cesse de ne pas s'écrire. Bon, donc c'est... Écoutez, nécessaire N de P... Impossible, I de P. Qu'est-ce que c'est que I de P ? C'est N de non-P. Voilà. L'impossible, c'est le nécessairement non. Le nécessairement non, c'est le contraire, c'est une façon d'être contraire au oui. Non ? Nécessairement non. C'est pas nécessairement oui, c'est nécessairement non, c'est le contraire. Non, c'est ça l'impossible. Ça, c'est la définition modale. Alors maintenant, regardez comment on peut écrire. On peut écrire... Pour écrire le possible et le contingent, regardez, ça s'écrit. Alors là, il faut que je fasse un dessin pour m'en souvenir, parce que vous savez, je n'apprends pas tout ça par cœur, j'apprends rien par cœur. Donc si je mets S ici j'ai non-P, et ici j'ai non-P. Eh bien oui, le problème du contingent, c'est qu'il faut choisir, et le possible, il faut choisir entre ça. Et ça. Donc, vous voyez, vous en avez un qui est possible et l'autre qui est contingent. Ça dépend comment vous interprétez ces deux modes, possible ou contingent. Mais vous voyez bien que c'est bien ce qui se passe ici. Vous avez le déplacement d'une négation qui est devant tout un truc et qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, la négation ici, elle est devant quelque chose et elle rentre à l'intérieur. Elle vient ici. Vous voyez ? Bon. Mais vous pouvez le lire aussi autrement. Regardez, c'est celle-là qui est devant tout ça et qui vient rentrer à l'intérieur. Vous savez pas, ça dépend à laquelle vous... Qu'est-ce que vous allez faire jouer comme rôle, voyez-vous, à la négation classique et à la négation modifiée. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est entièrement mobilisable et déformable. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que vous pouvez le lire à l'endroit et à l'envers. Vous pouvez faire jouer à la négation classique le rôle de la modifiée et la modifiée le rôle de la classique. Ça, c'est mes nœuds logiques. Vous voyez ? Mais que les nœuds logiques, vous pouvez ensuite les retourner et faire le contraire. Bon. Donc, on rentre dans une dialectique, ça s'appelle comme ça. Là, quand il dit une mathématique dialectique avec laquelle il faudra se familiariser. Hein, 1957, la chose freudienne, il écrit ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Depuis, on rigole. On l'a laissé partir comme ça en avant. Bon, grâce à nous, grâce à tous ces jeunes gens qui l'ont soutenu et ces moins jeunes, il a pu dire des choses extraordinaires, mais les choses extraordinaires qu'il a pu dire, pour l'instant, c'est tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc la question, se poser. Moi, je vous dis, la question, elle est la suivante. C'est comment faire du lien social avec ça. Et ce que je dis, la seule chose que je dis, c'est pas pour convaincre, c'est si ça vous intéresse pas, si ça vous intéresse pas, surtout ne faites pas ça. Hein. Si vous n'avez pas le goût si vous n'êtes pas curieux, c'est purement de la curiosité. Il faut avoir une certaine curiosité pour s'intéresser à la psychanalyse. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je ne laisserai pas dire que l'enseignement de Lacan et l'enseignement de Freud, il n'y a rien à cirer. Comme on a tout essayé, vous savez, ils ont fait une émission comme ça, les copains du Meunier, à la télé, vous savez, comment il s'appelait, Beaufy, ou comment il s'appelait le mec qui a fait, on a tout essayé. Vous n'avez pas vu cette émission il y a quelques années, parce que moi je suis en Argentine, alors j'ai 30 ans de retard. Vous savez pas qui c'est qui a fait, on a tout essayé, vous ne connaissez pas cette émission, vous regardez pas la télé, j'ai un bon public. Bon, ils ont fait tout, on a tout essayé parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont diffusé par voie de presse, vous voyez, de dire on a tout essayé sauf Vapro, mais lui on l'essaiera pas. Allez, j'arrive. La semaine prochaine, je vous raconterai ce qui s'est passé à Bruxelles. Le 9 et 10 février. C'est public, hein, vous pouvez venir. Hein. Il y a que 50 places, mais ils ont prévu un amphi de rattrapage si jamais il y avait beaucoup de monde. Mais ils n'espèrent pas qu'ils. Ils vont faire tout pour qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que sinon ils ne m'auraient pas invité. Allez, au revoir.
C'est quoi ?
Le 9.
Bon, c'est mercredi.
Mais moi j'ai été clair.
Et vous la
rêvez ? Oui, oui, je suis là. Vous connaissez
Pierrot ? Ah
oui ?
Il m'a venu parler. Oui, il est un grand lecteur de Zelda,
il
a
fait un livre. Et il m'a dit
d'aller
rentrer dans le
Non,
j'ai reçu avec tout le monde.